Bonjour à tous. Je vous invite à lire avec moi dans le livre de l'Exode, au chapitre 14. L'Éternel parla à Moïse et lui dit : Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Zéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël : Ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent : Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Zéphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse : N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple : Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse : Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Savez-vous ce qu'est le syndrome du bébé en pointillé ? J'ai appris récemment la signification de cette expression. Dans une maternité, on voit des mamans qui donnent le sein ou le biberon à leur bébé en même temps que de l'autre main, elles tiennent ouvert leur téléphone mobile. Leur regard se porte alternativement sur leur nouveau-né et sur l'écran de leur smartphone. Comme le regard de l'enfant suit celui de sa maman, il regarde lui aussi le visage de sa maman en alternance. Ce regard alternatif s'installe dans son comportement, observé dans plusieurs endroits, et c'est ce phénomène que l'on appelle le syndrome des bébés en pointillés. Ce mouvement de va-et-vient dans le regard produit une difficulté à se stabiliser dans un regard durable. Or, ce regard, porté sur un visage, une personne, une situation, un événement, souligne la nécessité d'une attention d'une certaine durée pour en saisir la réalité d'une présence, d'une expression, d'une relation, d'une parole aussi. Qu'est-ce qu'un regard aujourd'hui ? Quelle est sa consistance quand on change constamment d'objet regardé et de plus en plus rapidement ? Dans les éléments qui déterminent nos comportements, le regard joue un rôle primordial, un rôle capital. Au point que regarder signifie se comporter d'une certaine manière. Le regard signifie la manière selon laquelle on considère les choses. Que regardons-nous et comment regardons-nous ? Je voudrais, sur la base d'éléments bibliques, bien entendu, aborder cette question, ces questions ce matin. Et je commence par le regard du peuple vers Dieu. Et nous avons lu cet épisode qui précède, pour le peuple d'Israël, la traversée de la mer Rouge. À la sortie d'Égypte, le peuple des enfants d'Israël est appelé par Dieu à marcher vers le pays de la promesse. À marcher, d'abord, pour traverser la mer Rouge. La parole de Dieu leur dit ce qu'il va faire. Et cette parole les enseigne. Et cette parole les appelle à la confiance avant le regard. Dieu se révèle d'abord par sa parole. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien », parce que le peuple était absolument dans l'effroi en voyant les armées de Pharaon qui s'approchaient. « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Regardez l'œuvre de Dieu. Regardez ce que Dieu va faire pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Parle aux enfants d'Israël, dit Dieu à Moïse, et qu'ils marchent. Dieu se révèle d'abord par ses œuvres. La première d'entre elles étant celle du salut accompli pour son peuple. Et c'est pour cela que Moïse, après la traversée de la mer Rouge, chante un cantique, au chapitre 15 de l'Exode. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, « Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Le Dieu du salut. Regardez la délivrance. Regardez la délivrance que l'Éternel va accomplir aujourd'hui. C'est le premier regard du peuple. Un deuxième regard que nous allons considérer, c'est le regard du peuple au pied du Sinaï, à l'endroit précis où Dieu a convoqué son peuple pour lui donner sa loi. Et vous savez dans quel cadre et dans quelles circonstances et dans quel environnement Dieu a donné sa loi à son peuple. Il y avait sur la montagne du Sinaï toutes sortes de manifestations impressionnantes, des éclairs, le tonnerre. Le peuple tout entier entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Là encore, Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, ne craignez pas. » Les circonstances étaient évidemment bien différentes des précédentes. Mais dans un autre cadre, le peuple était dans la peur. « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Si Dieu est venu dans ce cadre impressionnant du Sinaï et dans ses manifestations extraordinaires, c'est pour que le peuple ait conscience de la grandeur de Dieu, de sa puissance, de sa sainteté. C'est dans ce cadre-là que Dieu donne la loi à son peuple et Dieu la donne pour le bien de son peuple. Et Dieu, en plus, assurera la conduite de son peuple dans sa marche vers la terre promise par la colonne de nuée et la colonne de feu tout au long de son parcours au travers du désert. C'est le deuxième regard du peuple vers Dieu. Troisième regard. La présence de Dieu au milieu de son peuple est assurée par le sanctuaire du tabernacle. Et ce même Dieu qui a manifesté sa grandeur et sa puissance sur le Sinaï, dit à son peuple, dit à Moïse, pour le transmettre à son peuple, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le même Dieu du Sinaï a donné cette mission à Moïse et à son peuple. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu du peuple. Élément absolument essentiel, parce que là, les Israélites, le peuple d'Israël pourra porter vers Dieu un troisième regard, celui de la demeure de Dieu au milieu de son peuple. Regarder le tabernacle, c'est regarder la demeure de Dieu au milieu de son peuple. C'est exprimer à Dieu sa confiance, c'est croire en Dieu. C'est cela, regarder le tabernacle. C'est marcher par la foi. Nous allons franchir un temps d'histoire assez long. Le peuple va marcher d'abord dans le désert, ensuite entrer dans la terre promise, s'y installer et y vivre longtemps. Et à la fin de la période de vie dans ce pays de Canaan, à la fin de cette tranche d'histoire, voici ce que nous lisons. Alors cette fois, c'est dans le livre des Chroniques, au chapitre 29. À la fin de l'histoire de ce peuple dans le royaume, dans les deux royaumes, puisque c'est cela la fin de l'histoire. Et nous lisons l'histoire d'Ézéchias, roi de Juda, chapitre 29 de 2 Chroniques. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abija, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Ces portes avaient été fermées et elles avaient été brisées. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale et il leur dit, « Écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel. Et ils lui ont tourné le dos. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. » Après ce troisième regard de contemplation du tabernacle, voici le détournement du regard. Nos pères ont péché, ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Quelle parole dramatique. Détourner le regard du tabernacle, de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ils lui ont tourné le dos. Oui, détourner le regard du tabernacle, c'est tourner le dos à Dieu. Et c'est là le grand malheur qui va entraîner toute la suite de l'histoire, le peuple amené en captivité, comme nous le connaissons. Et cette parole de détournement du regard vers le tabernacle m'a fait penser à cette autre parole qui concerne Lot, bien avant. Lot qui a été amené à fuir Sodome et Gomorre, et Dieu lui a envoyé un message pour le faire sortir, et lui dire, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière. Sauve-toi vers la montagne, sauve-toi pour ta vie. Et puis, la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Et cet épisode est repris dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous de la femme de Lot, lisons-nous, dans l'Évangile selon Luc. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Voilà quelques regards du peuple de Dieu. Je voudrais maintenant aborder un autre chapitre sur le regard humain. Et je commence ce chapitre par une parole qui se lit dans l'Ecclésiaste et qui s'adresse aux jeunes gens. Nous lisons, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Si ça s'arrêtait là, on dirait, mais comment ? Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je relis. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Autrement dit, tu es libre, mais tu dois choisir parce que tu es responsable. C'est cela, me semble-t-il, le message de cette parole. Là, je fais une simple énumération de divers regards. Dans l'évangile de Marc, nous lisons « C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées et le regard envieux. » Dans le psaume 131, le psalmiste dit « Éternel, je n'ai pas des regards hautains. » C'est un cantique pour la route du roi David. « Je suis resté tranquille et dans le calme, je me sentais comme un nourrisson rassasié dans les bras de sa mère, comme un nourrisson apaisé. Israël, mets ton espérance en l'Éternel dès maintenant et pour toujours. » Je mets évidemment en contraste ces éléments-là. Et puis nous lisons encore, par exemple, dans le livre des Proverbes, c'est pris dans divers endroits de l'Ancien et du Nouveau Testament, « L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni. » On peut regarder avec envie, on peut regarder d'une manière hautaine, on peut regarder avec bonté et bienveillance. Dans ce même livre des Proverbes, nous lisons « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. C'est de lui que sortent les bonnes et les mauvaises choses, les bonnes et les mauvaises pensées, les bons et les mauvais regards. Proscris loin de toi le langage pervers, éloigne de toi la médisance, que tes yeux fixent bien en face et que ton regard soit dirigé droit devant toi. Prépare ton chemin avant de t'y engager et emprunte les routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. » Le regard humain révèle le cœur, tantôt bienveillant ou apaisant, tantôt agressif, orgueilleux ou méprisant. Tel est le regard humain qui vient du cœur. Je voudrais lire encore, et cette fois, dans le livre des Nombres, un épisode bien connu sur le regard. Nombres, chapitre 21. À partir du verset 4. Il s'agit du peuple d'Israël toujours. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ce qu'ils appelaient la misérable nourriture, c'était, vous le savez, la manne. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze conserver la vie. Le regard vers le salut, le regard vers ce que Dieu a prévu pour sauver ceux qui se tournent vers lui. Regardez Dieu, regardez ses œuvres et regardez sa parole. Ce sera la dernière partie de mon propos ce matin. Nous lisons dans la lettre de Paul aux Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voir l'œuvre de Dieu, regarder l'œuvre de Dieu et découvrir Dieu au travers de son œuvre, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se découvrent dans sa création. Nous lisons dans le psaume 34, qui est un psaume de David, « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Qui regarde vers le Seigneur est rayonnant de joie, et jamais son visage ne se couvrira de honte. Le prophète Michée, quant à moi, je regarde vers l'Éternel. Je m'attends au Dieu qui me sauve et mon Dieu entendra ma prière. Dans l'épître de Jacques, nous disons « Si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. » On parlait du cœur, maintenant on parle de découvrir son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui plonge ses regards dans la loi parfaite. Qui plonge ses regards dans la loi parfaite. La loi qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu d'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Voilà une manière de décrire le comment vivre selon Dieu, comment marcher par la foi. En plongeant ses regards dans la loi parfaite, regardez au Seigneur, regardez à la parole du Seigneur, plongez ses regards dans la loi parfaite. Ce n'est pas jeter un coup d'œil à sa Bible, hein. C'est plonger ses regards dans la loi parfaite, méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la marche par la foi. Nous aussi, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, et qui la porte à la perfection. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi, et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, Jésus a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous lassiez pas, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Les dernières paroles que je lirai ce matin avec vous, ce sont celles des Béatitudes. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Amen.